Et bonjour à tous. La campagne de vaccination contre la Covid-19 a connu un retard à l'allumage et nombreuses sont les personnes âgées qui peinent encore à se faire vacciner. Or, ces vaccins, c'est l'Europe qui les a négociés et c'est l'Europe qui nous les fournit. Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour Jacques.
Vous avez donc voulu savoir ce que Bruxelles avait négocié avec les laboratoires et vous allez nous raconter les coulisses de ces discussions, on va le voir, qui ont eu lieu dans le plus grand secret.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Moi, je défends et je continue à le défendre mordicus, ce cadre européen. Qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas le cadre européen d'achat commun ? Aujourd'hui, chaque gouvernement, imaginez, l'Allemagne, la France, l'Italie, sera en train d'appeler le laboratoire pour essayer de se refaire des livraisons sur le dos du voisin.
Voilà, ça c'était Clément Beaune, le secrétaire d'État qui est en charge des affaires européennes. C'était sur Inter le 1er février dernier. Il justifie, vous l'avez entendu, la stratégie française de s'en remettre à l'Europe pour gérer les achats et la distribution des vaccins. Sinon, explique-t-il, ça aurait été la jungle. Maintenant, comment l'Europe a-t-elle négocié avec les laboratoires ? C'est donc ce qu'on va voir avec vous, Élodie Guéguin. Mais pour répondre à cette question, même si ça peut paraître un peu bizarre, il faut d'abord faire un détour par les États-Unis.
Oui, parce que les États-Unis ont joué un rôle essentiel dans ce dossier. Alors c'est vrai, on se souvient avec quelle légèreté Donald Trump parlait des possibilités de traiter le Covid-19. Le vaccin semblait alors le cadet de ses soucis. Je vous propose de réécouter cette séquence absolument hallucinante qui a eu lieu lors d'une conférence de presse le 24 avril.
Je vois que le désinfectant élimine le virus en une minute. On peut peut-être s'inspirer de ça en injectant dans le corps ou au moins en le nettoyant. Parce que le virus va dans les poumons et fait de gros dégâts. Donc, ça serait intéressant de vérifier ça. Il faudrait qu'on fasse travailler des médecins là-dessus. Mais ça me paraît intéressant comme piste.
Ouais, Donald Trump qui propose d'injecter de l'eau de Javel pour vaincre la maladie. Et pourtant, ça ce n'est que de l'apparence, Élodie, parce que derrière cette désinvolture, une véritable machine de guerre est en train de se mettre en place.
Effectivement, dès le mois de février 2020, donc très tôt, les États-Unis débloquent plus de 10 milliards de dollars pour la recherche. Et pas seulement pour aider des entreprises américaines. En fait, ils financent des laboratoires pharmaceutiques dans le monde entier. Et comme ils sont prévoyants, évidemment, ils réservent au passage des doses de vaccins à ces laboratoires.
Mais ces milliards qu'ils ont débloqués, les ont trouvés où ?
Alors, ils ont utilisé une institution très puissante qu'on appelle la BARDA, comme nous explique depuis les États-Unis Manon Reiss, l'une des représentantes de l'ONG Knowledge Ecology International.
BARDA, c'est le Biomedical Advanced Research and Development Authority et c'est en fait un département américain de la santé et des services sociaux. À travers ce BARDA, le gouvernement américain a conclu des contrats avec des dizaines d'entreprises. Certains contrats étaient pour moins de 10 millions de dollars. Par contre, le contrat avec Pfizer est pour presque 11 milliards de dollars. Pour la recherche et le développement du vaccin de Moderna, qui est un contrat de 1 milliard de dollars, nous avons appris que le gouvernement a financé 100% du coût du développement.
Ah oui, donc c'est l'État américain qui a financé l'intégralité du vaccin Moderna. Bon, cela dit, il a aussi misé sur des Français, sur Sanofi notamment. Non ?
Oui, et écoutez d'ailleurs à ce sujet l'anecdote que nous a rapporté Bruno Canard, un chercheur au CNRS à Marseille qui travaille depuis 20 ans sur les coronavirus. Au début de la crise sanitaire en France, le 5 mars, il est invité à l'Élysée pour discuter avec Emmanuel Macron. Il y a là d'autres scientifiques et des industriels. Et Bruno Canard assiste alors à une conversation qui lui paraît surréaliste.
Je discutais et tout d'un coup, je vois quelqu'un qui arrive, qui me coupe la parole et qui dit à mon interlocuteur « Ah, tiens, tu sais pas, bonne nouvelle, on a reçu 650 millions d'euros du BARDA. » C'était le directeur de Sanofi. Et donc, je me rends compte qu'on vit dans des mondes complètement différents où nous, on se bat comme des chiffonniers pour avoir de quoi faire travailler tous les chercheurs qui essaient, pour le bien commun, de trouver toutes les données scientifiques dont on voit qu'on a besoin maintenant. Et d'un autre côté, il y a des chèques qui circulent comme ça, de 650 millions d'euros, pour faire des projets de recherche comme ça. Voilà, j'ai été absolument stupéfait.
et chez Sanofi. On confirme l'existence de cette manne financière ?
Alors non, on explique que la Barda ne lui a pas donné 650 millions pour des recherches sur le Covid, mais 30 millions. En revanche, ce que l'on sait, c'est que l'armée américaine a elle aussi conclu un contrat avec Sanofi et GSK, un contrat pour le développement du vaccin, pour la conduite des essais cliniques et la fourniture de 100 millions de doses. Les Américains sont prêts pour cela à débourser une somme colossale, 2,1 milliards de dollars.
Ouais, ce qui explique peut-être pourquoi Sanofi, à un moment, a laissé entendre qu'il pourrait servir en priorité les États-Unis. Donc, si j'ai bien compris, Elodie, Washington sort le carnet de chèques et il arrose tous azimuts.
Oui, ça va entraîner de sérieuses frictions entre Bruxelles et Washington, parce que l'administration américaine est allée jusqu'à draguer, si on peut dire, des labos européens bien placés pour trouver un vaccin.
Par exemple ?
Eh bien, par exemple, l'allemand CureVac, comme le raconte Martin Pigeon de Corporate Europe Observatory, une ONG qui scrute les rapports entre Bruxelles et l'industrie.
Trump aurait approché l'entreprise allemande de biotechnologie CureVac, qui a effectivement un vaccin de type ARN messager sur les starting blocks, là, pour s'en assurer le monopole et faire en sorte que c'est America first, quoi. C'est sa ligne politique, c'est moi d'abord et le reste du monde peut crever.
Bon, cela dit, CureVac n'a pas cédé aux sirènes américaines.
En effet, c'est ce que raconte Jean-David Malot. Il est le directeur général de la recherche et de l'innovation à la Commission européenne.
CureVac aurait pu décider d'aller aux États-Unis et de se faire soutenir aux États-Unis aux conditions posées par le gouvernement américain. Mais CureVac a préféré rester en Europe. Cette prise de conscience de la nécessité de soutenir la souveraineté technologique de l'Europe, même si évidemment il pouvait y avoir une crainte d'un exode, cet exode n'a pas eu lieu.
Oui, d'ailleurs, ça fait partie des belles histoires dont on s'enorgueillit à Bruxelles. Le Conseil européen de l'innovation rappelle qu'il a soutenu financièrement, avant la crise, deux petites sociétés encore peu connues, CureVac donc, mais aussi BioNTech, qui, dans la course au vaccin, a finalement distancé les grands noms de Big Pharma.
Donc l'Europe n'a pas été si mauvaise que ça, finalement ?
Oui, mais bon, ce que l'Europe leur a versé, ça reste une goutte d'eau comparativement aux moyens déployés par les Américains. Ce sont eux qui, finalement, ont quand même largement financé la recherche des vaccins aujourd'hui distribués chez nous.
Mais pourquoi nous, on n'a pas déployé les mêmes moyens ?
Eh bien, parce qu'au début de la pandémie, Jacques, la Commission européenne n'était pas outillée pour. Elle n'avait ni les moyens, ni les structures dont disposait Washington. En Europe, il n'y avait pas d'équivalent à la BARDA. Bref, on n'était pas prêt, estime l'eurodéputé En Marche, Pascal Canfin.
Le point de départ de l'Europe de la santé, au moment de la crise, c'est-à-dire au printemps 2020, c'est zéro. Et ça, c'est une très grande différence avec les États-Unis, qui étaient capables d'appuyer sur un bouton et de déclencher le financement de plusieurs milliards d'euros immédiatement. C'est une différence très forte des points de départ et on ne pouvait pas reprocher à l'Union européenne de faire quelque chose pour lequel elle n'avait pas les compétences.
Oui, il a donc fallu improviser cette Europe de la santé, la construire en partant de rien. Et il faudra en tirer des leçons, dit aussi Jean-David Malot, le directeur de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne.
Les États membres ont pris conscience de ce manque. Et dans son discours sur l'état de l'Union, notre présidente Ursula von der Leyen a mentionné clairement que la Commission ferait une proposition dès cette année pour mettre en place un BARDA européen. Parce qu'on a absolument besoin d'un outil de ce type si on veut pouvoir réagir plus vite et surtout avec une plus grande puissance de feu si on était confronté à terme à une crise identique à celle que nous vivons aujourd'hui.
Ouais, donc on apprend en marchant, comme on dit, et ça pourra peut-être nous servir de leçon.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors rentrons maintenant dans le vif du sujet, Elodie Guéguin. Lorsqu'on a envisagé d'avoir des vaccins chez nous en Europe, comment la Commission européenne a négocié avec les laboratoires ?
Alors déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on le fait assez tardivement. C'est en juin 2020 que la Commission comprend qu'elle doit prendre la main pour ne pas laisser les États membres se faire la guerre pour le vaccin, comme ça a pu être le cas, vous en souvenez, au début de la pandémie avec les masques.
Ouais, sauf que, comme les États-Unis sont déjà passés par là, eh bien, on n'arrive pas en position. de force.
Effectivement, comme les laboratoires sont sous perfusion américaine, si j'ose dire, ils n'ont pas très envie de se voir imposer quoi que ce soit par Bruxelles. C'est notamment pour ça que les négociations sont très longues.
Ouais, très longues et parfois assez tendues.
Oui, parce que le lobby de l'industrie pharmaceutique n'a pas vu d'un très bon œil la décision de la Commission de négocier au nom des 27 États membres. Quand vous négociez pour 27, évidemment, vous commandez plus de doses, vous faites baisser les prix et ce n'est pas bon pour les affaires. Et ça s'est d'ailleurs ressenti dans les négociations, admet la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher.
Dans le rapport de force qui a pu s'installer entre les gouvernements et les entreprises, il y a eu effectivement parfois une tentation pour certains laboratoires pharmaceutiques de faire jouer la concurrence entre les États. Et c'est pour ça qu'il était aussi essentiel de faire en sorte que les 27 États européens soient totalement alignés et créent un rapport de force favorable avec les laboratoires. Et si cela n'avait pas été, je peux vous dire qu'on aurait d'énormes difficultés à fournir des vaccins.
Donc le fait d'être à 27, ça a aidé à négocier.
Alors, c'est peut-être vrai pour les prix, Jacques, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, mais ça ne l'est pas pour ce qui concerne la responsabilité juridique des fabricants de vaccins.
La responsabilité juridique, c'est-à-dire ?
Alors, pour faire simple, c'est qui sera responsable en cas de pépin ? Ça a été un gros point d'achoppement. Et c'est aussi pour ça que les négociations ont traîné, raconte l'eurodéputé Pascal Canfin, notamment pour le vaccin Pfizer-BioNTech.
Pfizer est arrivé dans la négociation en disant, nous, bien évidemment, ce que l'on veut, c'est que le droit américain de la responsabilité juridique s'applique. C'est-à-dire, en gros, un droit qui exonère les laboratoires de toute responsabilité juridique en cas de problème. Et la Commission européenne a dit, il y a eu l'heure de question. Et ça a mis des mois. Et c'est pour ça que qu'on peut pas à la fois reprocher à la Commission européenne de défendre le fait que ce soit le droit européen qui s'applique en matière de responsabilité juridique, et en même temps lui dire « Ah mais vous avez mis trop de temps à négocier ».
Ah oui, si on a perdu du temps, c'est parce qu'on a voulu que les labos soient responsables en cas de problème avec les vaccins. Mais au final, ces labos, ils ont accepté de l'endosser, cette responsabilité ?
Eh bien oui et non. Oui, parce qu'ils ont accepté d'être tenus pour responsables de tout problème lié à l'approvisionnement ou à la fabrication. En revanche, pour ce qui concerne la santé, les industriels ne seront tenus pour responsables de rien. En cas d'effet indésirable grave, ce seront les États membres qui indemniseront les victimes, comme le reconnaît Guillaume Roty, le porte-parole de la Commission européenne en France.
Si il se trouve que mon vaccin a des effets qui n'étaient non anticipables et qui n'ont été vus par personne, c'est plutôt ce type de choses-là, dans ce cas-là, qui va indemniser les citoyens européens qui seraient victimes de ces effets-là ? Les clauses qu'on a signées laissent la possibilité aux États membres de réaliser cette indemnisation. C'est les citoyens européens qui assument ensemble ce risque-là, potentiel, du vaccin qu'on ne pouvait pas anticiper.
Donc ce seraient les citoyens européens qui paieraient.
Oui, et c'est pour ça que Martin Pigeon de l'ONG CEO estime que les labos pharmaceutiques sortent finalement grands gagnants de ces négociations.
Ils ont beau jeu de dire, bah écoutez, vous voulez qu'on aille au plus vite ? Vous voulez qu'on prenne des risques ? D'accord, mais alors, c'est votre problème. Quelque part, ça, c'est entendable. Le problème, c'est que là, maintenant, on est dans une configuration où les risques, c'est pour tout le monde, les profits, c'est que pour eux. Et ça, c'est pas acceptable.
Mais est-ce qu'ils sont importants, ces profits, Élodie ? Autrement dit, combien on a déboursé pour les acheter, ces vaccins ?
Eh bien, on approche maintenant des 3 milliards d'euros pour des contrats passés par l'Union avec 8 fabricants. Alors attention, dans ces 3 milliards, il y a à la fois de l'argent pour la recherche et pour les doses qui sont précommandées ou préachetées. Mais il y a aussi des sommes conséquentes qui ont été perdues, puisque certains labos, et c'est normal, ont été subventionnés, mais n'ont pas trouvé de vaccin.
Par exemple ?
Eh bien, c'est le cas à ce stade de Sanofi Pasteur. Et sur ce point, écoutez comment se justifie le porte-parole de la Commission, Guillaume Roty.
À l'époque où on était en discussion avec eux, il y avait plutôt des bonnes chances de succès. C'était l'un des vaccins dont on se disait que ça allait être un des premiers sur le marché. C'est celui qui a un peu déclenché toute cette philosophie de se dire « réservons les doses dès maintenant, même si le vaccin n'existe pas » suite aux déclarations américaines. Donc, il y avait une incertitude. En revanche, C'était une incertitude un peu contrôlée, donc on a négocié et on est rentré en discussion avec des laboratoires qui avaient des vaccins qui étaient déjà assez avancés. L'objectif principal, c'était vraiment qu'il y en ait au moins un qui marche. Aujourd'hui, on est dans une meilleure situation où on en a plusieurs, et tant mieux. Mais quand on était à l'été 2020, la question c'était, on espère qu'il y en a un qui va marcher, et faisons tout en sorte pour qu'un vaccin qui fonctionne émerge.
Ouais, donc on a pris des risques parce qu'on était en plein brouillard, ce qui peut s'entendre, hein, vous le disiez. Mais au final, est-ce qu'on sait quel laboratoire a touché quelle somme ?
Eh bien non, je ne peux pas vous répondre.
Et pourquoi ça ?
Je ne peux pas vous répondre parce que tout ce qui concerne les négociations avec les laboratoires s'est fait dans le plus grand secret, avec des clauses de confidentialité sur les contrats imposées par les industriels et que la Commission a tout bonnement acceptées, comme l'admet d'ailleurs Guillaume Roty.
On ne rend pas ces contrats publics par amour du secret. Je pense qu'on ne rend pas ces contrats publics aujourd'hui parce que c'était la condition nécessaire à leur signature. Et on a estimé que c'était plus important d'avoir ces contrats, même secrets, que de ne pas les avoir. Et si vous voulez signer un accord de préachat avec un laboratoire qui vous dit « moi je ne signe que si c'est confidentiel », vous êtes dans une situation où vous acceptez cette confidentialité.
Ouais, donc la Commission européenne a cédé pour protéger le secret des affaires.
Oui, sauf qu'il s'agit là d'argent public, hein, de l'argent des États membres. Il y a un contrôle des dépenses qui doit être fait. C'est d'ailleurs le rôle du Parlement européen. Le secret pose donc problème à l'eurodéputé écologiste Michel Rivasi.
Quand on a voté les 2,1 milliards en septembre, vous comprenez bien que moi, mon travail à la Commission de contrôle budgétaire, c'est de contrôler ce qu'on fait du budget européen, ce qu'on fait de l'argent public. Eh bien, si je n'ai pas la transparence des contrats, je ne peux pas faire mon boulot. Je suis une marionnette. Pendant très longtemps, la Commission nous disait « mais on ne peut pas, c'est un secret d'affaires, on est en pleine négociation ». Ce qui est terrible au niveau de ces laboratoires, c'est qu'ils utilisent en fait la pandémie pour se faire des profits. Et on devrait justement, s'il y avait une transparence sur les prix, savoir d'une part combien d'argent public ils ont reçu dans le cadre de la recherche et développement pour qu'on adapte les prix en fonction justement des frais occasionnés. Or là, ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez que l'opacité, en fait, elle profite aux laboratoires. Si tout était transparent, eh bien, on pourrait réaligner les prix en fonction justement du prix coûtant des vaccins. Or, qui détient cette information ? Eh bien, c'est bien sûr les laboratoires pharmaceutiques, mais avec la complicité de la Commission européenne.
Mais ça veut dire qu'on n'a aucune idée de ce que coûte une dose d'un vaccin AstraZeneca, Pfizer, BioNTech ou Moderna ?
Alors, si, quand même. Hein. Mais écoutez bien, Jacques, ça ressemble un peu à une blague belge. Le prix des doses et les sommes versées au laboratoire ont été publiés dans un tweet par la secrétaire d'État au budget belge. Tweet que nous publions d'ailleurs sur notre site internet. Vous pourrez voir quels sont les chiffres qu'elle a donnés à l'époque. Ce tweet, elle l'a rapidement retiré en s'excusant pour sa gaffe. Maintenant, était-ce vraiment une gaffe ? Martin Pigeon, de l'ONG CEO, n'en est pas convaincu.
La question, évidemment, que tout le monde se demande, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est une erreur ? Ou dans quelle mesure cette personne n'a-t-elle pas agi comme, finalement, son mandat le lui enjoindrait, dans l'esprit, hein. Elle a été élue, elle est censée représenter les intérêts des citoyens belges, et peut-être que dans son esprit, la meilleure façon de défendre les intérêts des citoyens belges, c'est de les informer de combien vont leur coûter ces vaccins. Par contre, je pense que ça a dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup crier chez les labos pharmaceutiques, et notamment chez leurs avocats.
Et la France, elle, Élodie, c'est quoi sa position ? Elle cautionne ce manque de transparence ?
Alors officiellement, non. Hein. Bercy nous a même fourni un courrier daté du 14 décembre dans lequel trois ministres du gouvernement somment la commissaire européenne à la santé de dévoiler les éléments importants des contrats. Il en va, je les cite, hein, de l'acceptabilité du vaccin par la population, mais aussi du respect des principes démocratiques.
Et ce courrier, il a reçu une réponse ?
Aucune. Écoutez cet échange que j'ai eu sur le sujet avec la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher.
La France a été très claire. Nous avons co-signé avec Olivier Véran et Clément Beaune une demande à la Commission européenne de transparence sur les contrats. Parce que c'est absolument essentiel. Essentiel pour lutter contre les mauvaises informations qui circulent. Essentiel tout simplement parce que ces contrats sont financés par l'argent public et que nous devons être comptables de l'utilisation de l'argent public.
Sur les prix annoncés par la secrétaire d'État au budget belge, vous nous les confirmez, ce sont les bons prix. Le Moderna à 18 $, l'AstraZeneca à 1,78 € la dose. Est-ce que ce sont des prix exacts ?
Alors, ça ne reflète pas l'intégralité des contrats. Et comme je ne suis pas habilitée à communiquer, puisque c'est une demande que je fais à la Commission européenne, mais elle est signataire des contrats et je ne veux pas mettre en difficulté juridique la Commission européenne, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'on a beaucoup de sujets à négocier avec les laboratoires pharmaceutiques, notamment en termes de livraison et de calendrier de livraison et de calendrier de fabrication, j'en resterai là.
D'accord, donc on demande à Bruxelles d'être transparent, mais on ne donne pas les infos pour autant.
C'est ça, alors quand même, 3 laboratoires ont accepté, hein, sous la pression des députés européens, de rendre public leur contrat. D'abord, ça a été CureVac, Michel Rivasi a été l'une des premières à pouvoir consulter ce contrat, mais voici dans quelles conditions.
Dans une salle confinée, où on pouvait regarder ça que pendant 45 minutes, un document de 67 pages, et on a vu qu'il y avait toute une série de paragraphes très importants qui avaient été rayés, qui avaient été biffés. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le lire.
Et les contrats de 2 autres laboratoires, AstraZeneca et Sanofi, ont eux aussi été rendus publics par la suite, mais là encore, très largement biffés, caviardés, comme on dit.
Ouais, donc en clair, on peut les voir, mais on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Finalement, cette émission Secret d'Info n'a jamais aussi bien porté son nom. Mais même avec le français Sanofi, on ne sait pas en fait ce qu'il y a dans le contrat.
Eh bien non, ça aussi c'est secret, Jacques, mais il y a peut-être des choses qu'on ne tient pas à faire savoir. Écoutez ce que m'a dit Manon Ress de l'ONG américaine KEI. Avec son équipe, elle a réussi à obtenir le contrat passé entre Sanofi et les États-Unis. Et voilà ce qu'elle a découvert.
C'est intéressant, le contrat de Sanofi contient une clause de prix de référence internationale qui stipule d'ailleurs que Sanofi ne peut pas vendre son vaccin aux pays du G7, je pense qu'on dit, plus la Suisse, à un prix inférieur à celui facturé aux États-Unis pour le vaccin.
Donc les États-Unis ont verrouillé le prix qu'on payera pour le vaccin Sanofi chez nous, en Europe, et donc ça devait rester secret.
Oui, mais le secret en Europe, il va encore plus loin, Jacques. Imaginez, même le nom des 7 personnes qui ont été désignées par les États membres pour négocier avec l'industrie pharmaceutique, eh bien ces noms, la Commission refuse de les dévoiler.
Mais en quoi ça pose problème de dire qui est le négociateur de la France, par exemple.
Eh bien, pour la Commission, ça aurait pu nuire au bon déroulement des négociations. C'est la réponse qu'elle a fournie par écrit au Parlement européen, réponse que nous avons fait lire.
Les noms des membres de l'équipe de négociation n'ont pas été divulgués afin de permettre à cette équipe d'accomplir ses tâches en toute indépendance et sans subir d'influence ou de pression extérieure.
Donc on cacherait leur identité pour mieux les protéger ?
Oui, mais c'est un argument que beaucoup ont du mal à comprendre, Jacques, parce que les pressions, elles pourraient venir essentiellement du lobby pharmaceutique. Or, ces personnes sont justement en discussion permanente avec l'industrie pharmaceutique. Et de toute façon, secret ou pas, il y a quand même eu un soupçon de conflit d'intérêts.
C'est-à-dire ?
Eh bien, un nom a fuité dans la presse étrangère, celui du négociateur suédois, un certain Richard Bergström. Il se trouve qu'il est l'ancien directeur de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques, un lobby extrêmement puissant.
Ouais, effectivement, ce qui pose quand même question, et pour la France, on sait finalement qui a négocié ?
Oui, c'est une négociatrice que j'ai identifiée et avec qui j'ai pu discuter. Et en ce qui la concerne, le gouvernement assure qu'elle n'a pas de conflit d'intérêts. Elle a effectivement fait toute sa carrière dans la haute fonction publique.
Donc, a priori, chez nous, il n'y aurait pas de soupçons. Et on va s'interrompre d'ailleurs quelques instants là-dessus, mais surtout, restez avec nous. On va essayer, dans une deuxième partie, de comprendre pourquoi on manque aujourd'hui de vaccins en France.
Just shit grin. Cooking something raw.
On sent des influences très différentes là-dedans, de la pop, du rock, des musiques orientales. C'était Straws in the Wind, dernier single du groupe psychédélique australien au nom imprononçable, King Gizzard and the Lizard Wizard.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Bien, alors on a vu comment l'Europe a négocié avec les laboratoires. Maintenant, on voit que beaucoup de personnes âgées attendent toujours un vaccin qui tarde parfois à arriver. Alors, est-ce qu'on a discuté avec suffisamment de labos pour pouvoir servir tout le monde, Élodie Guéguin ?
Eh bien, la question se pose, Jacques, hein, notamment en France, parce qu'on se rend compte, par exemple, que l'entreprise Valneva, qui a son siège tout près de Nantes, n'a pas négocié dans un premier temps avec l'Union européenne. Ce sont les Britanniques qui ont financé toutes les recherches sur son vaccin, qui devrait être homologué bientôt. Et donc, comme le disait Franck Grimaud, son directeur sur France Info, ce seront les Britanniques qui seront servis en premier.
On a contacté tous les pays dans lesquels on a des bases et c'est le Royaume-Uni qui s'est positionné le premier. Et il fallait aller très très vite hein, pour qu'un vaccin soit disponible cette année.
Ouais, donc on a raté le coche avec Valneva. Maintenant, Sanofi n'est pas tout à fait hors course, non ?
Non, c'est vrai, mais l'entreprise a beaucoup de retard. C'est ce que regrette Fabien Mallet, coordonnateur de la CGT chez Sanofi.
Sanofi prend quasiment un an de retard sur ses concurrents, comme on dit dans l'industrie pharmaceutique. C'est quelque chose qui ne surprend pas malheureusement en interne. Beaucoup de chercheurs tiraient la sonnette d'alarme depuis un certain nombre d'années en disant qu'ils n'avaient soit pas les moyens nécessaires, soit qu'on partait pas sur les voies nouvelles de recherche. Il y a eu plusieurs interpellations qui ont été faites, notamment au comité de groupe France, par plusieurs organisations syndicales qui ont remonté le fait qu'il était temps quand même de venir sur les nouvelles voies vaccinales. C'est notamment l'ARN messager. Parce qu'on savait qu'en 2021, continuer à faire des vaccins sur des œufs, par exemple, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Donc ça fonctionne, oui, mais il y a des méthodes beaucoup plus efficaces aujourd'hui. Donc il y a vraiment eu un loupé assez général, et en particulier de Sanofi, de la prise en compte de cette nouvelle technologie.
Alors précisons, hein, Sanofi Pasteur travaille quand même sur la piste d'un vaccin à ARN messager, mais son issue est encore très incertaine.
D'où une certaine déception chez Sanofi. Mais cette déception, Élodie, on la retrouve aussi dans le secteur de la recherche publique.
Oui, la recherche fondamentale. Écoutez par exemple Bruno Canard, qui travaille, je vous le disais tout à l'heure, depuis 20 ans sur les coronavirus au CNRS. Lui réclame quelques millions d'euros pour acheter un super cryomicroscope qui permet de travailler sur le séquençage des virus dont on parle tant en ce moment. L'Allemagne en a 25 de ces cryomicroscopes, la France seulement 3, mais on lui répond toujours que ça coûte trop cher.
Depuis 2006, on nous fait faire des demandes de crédit et on a pu avoir 20 millions d'euros, il en manque 16. 16 millions d'euros, c'est un centième du crédit impôt recherche de Sanofi, annuel. L'entreprise a licencié en France et est en retard sur le vaccin Covid. On peut se poser la question si ça ne vaudrait pas une petite évaluation de l'effet du crédit impôt recherche.
Et ce chercheur est d'autant plus amer, Élodie, qu'il avait lui-même alerté sur la probabilité d'une pandémie.
Oui, il a alerté le ministère de la Recherche et la Commission européenne, avec trois autres scientifiques qu'il a adressés il y a quelques années, deux lettres à Bruxelles, des lettres très explicites. Écoutez-le.
En 2014, on dit attention, Ebola, on tire la sonnette d'alarme. Il faut se réveiller parce que ça risque d'arriver. Et donc, dans ce papier qui est une lettre d'expression d'intérêt, on donne à la fin de ce papier une liste de virus qui peuvent poser des problèmes. Et effectivement, en 2020, bing, c'est exactement ce qu'on a à l'heure actuelle.
Et elles ont fini où, ces lettres ?
Eh bien, sans doute au fond d'un tiroir, hein, quelque part à la commission, puisque ces scientifiques n'ont jamais eu de réponse.
Ouais, d'où ce sentiment amer qu'on retrouve chez beaucoup de chercheurs sur le fait qu'on n'ait pas anticipé les choses. Hein. Alors, on va maintenant conclure cette émission en regardant ce que sera l'avenir de ces vaccins, Élodie Guéguin. Aujourd'hui, plusieurs pays moins riches que nous demandent à pouvoir en fabriquer.
Oui, et à un prix raisonnable. Hein. Ils l'ont encore formulé très récemment, comme le raconte le militant associatif Martin Pigeon.
Jeudi 4 février, il y avait une réunion à Genève de l'Organisation mondiale du commerce pour discuter d'une requête de l'Inde et de l'Afrique du Sud pour envisager une levée temporaire, une dérogation temporaire, précisément des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et sur les technologies pour soigner le Covid-19. Eh bien, l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie, bref, l'ensemble des pays développés s'y sont opposés. Alors, pourquoi en mai, on était sur le bien public mondial et 8 mois plus tard, on se retrouve avec des décisions aussi incompréhensibles, au point de vue politique, au point de vue moral et y compris d'un point de vue de santé publique.
Mais Élodie, on peut contraindre un laboratoire à renoncer à sa licence, à mettre sa formule dans le domaine public ?
Alors oui, hein, il existe des outils juridiques permettant de les contraindre en cas d'urgence, et la pandémie en est une, hein, de les contraindre à renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle et de partager en quelque sorte leur secret de fabrication. Cela s'appelle la licence d'office, nous explique le président français de Médecins du Monde, le docteur Philippe de Botton.
La licence d'office est un outil juridique qui est très ancien, qui avait été introduit sous le général de Gaulle, vous voyez, donc ça ne date pas d'hier, et qui était ensuite traduit dans le droit international au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce en 1994, et qui permet, en cas de crise sanitaire et en cas de quantité insuffisante ou de qualité de tel ou tel produit médical, de lever les droits de propriété intellectuelle et les brevets. Et donc de permettre à des fabricants, à des génériqueurs, produire beaucoup plus de produits médicaux, que ce soit des vaccins ou des médicaments, de manière à répondre aux enjeux de santé publique.
Mais c'est déjà arrivé, ça ?
Oui, c'est arrivé pour le traitement du VIH, et il y a même eu par le passé des scientifiques qui sont allés plus loin et qui n'ont pas breveté leur découverte, comme le rappelle Fabien Mallet de la CGT de Sanofi.
On peut faire un parallèle avec le premier vaccin contre la polio qui avait été découvert et qui n'a jamais été breveté parce que la personne qui l'a découverte a estimé que ça devait être donné à l'humanité pour sauver un maximum de gens. Et bien là, en fait, on est face à peu près à la même chose. On a une pandémie qui touche les 7-8 milliards d'êtres humains qu'on est sur Terre, mais on a des labos qui maintiennent un droit privé sur quelque chose qui finalement pourrait sauver des millions de vies dans les années à venir.
Et pourquoi la Commission européenne tolère ça alors ?
Alors la Commission, mais également la France, hein, Jacques, rappelez-vous pourtant des propos d'Emmanuel Macron sur le bien public mondial. Eh bien la France considère que ça n'aurait pas de sens de mettre ses brevets à disposition des pays démunis alors qu'ils n'ont pas d'outils pour produire des vaccins.
Pas d'outils, c'est-à-dire pas d'usine, hein, pas de lieu de production.
Exactement.
C'est ça ?
Et la France considère aussi que la propriété intellectuelle doit être défendue, correctement rémunérée. Une position qui passe mal auprès de beaucoup de pays, vous l'imaginez. Récemment, le Mozambique ou encore le Pakistan ont fait part de leur incompréhension. Ils estiment qu'aujourd'hui, la moitié de la population mondiale est exclue des négociations sur les vaccins.
Oui, c'est un sujet qui est sans doute loin d'être clos. Bien, merci Élodie Guéguin pour cette enquête. Alors, je précise qu'on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter, Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Florent Layani. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain. Après le flash dans la librairie francophone, Emmanuel Queyrade recevra Olivier Pille, le directeur du Festival d'Avignon, qui publie le texte d'une nouvelle pièce.